Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. De nos armes seraient livrées. Que le territoire français serait totalement occupé. Et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cette armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement.
Bonjour Hugo.
Bonjour Gwen. Ouh là là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait, oui, de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu ne peux nous faire un petit historique sur ce conflit ?
Oui, à peu près 15 minutes. Alors, la Seconde Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, est un conflit armé à l'échelle planétaire qui dura du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Ce conflit planétaire opposa schématiquement deux camps, les Alliés et l'Axe, qui n'est pas un déodorant.
Oui, merci.
Il prit fin sur le théâtre d'opérations européen le 8 mai 1945 par la capitulation sans condition du Troisième Reich, puis s'acheva définitivement sur le théâtre d'opérations Asie-Pacifique le 2 septembre 1945 par la capitulation sans condition de l'Empire du Japon, dernière nation de l'Axe à connaître la défaite. Provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques de trois principales nations de l'Axe, Allemagne nazie, Italie fasciste et Empire du Japon, elle consista en la convergence à partir du 3 septembre 1939 d'un ensemble de conflits régionaux respectivement amorcés le 18 juillet 1936 en Espagne, la guerre d'Espagne. L'Allemagne avait pu tester d'ailleurs son aviation sur Guernica.
Voilà, c'est ça.
Un célèbre tableau.
De Pablo Picasso.
Merci monsieur. 18 juillet 1936, donc en Espagne. Le 7 juillet 1937 en Chine, la guerre sino-japonaise. D'ailleurs, on en parle dans la série Les Têtes Brûlées. Mmh. C'est avant qu'ils étaient les pilotes.
Ouais.
Ils avaient été envoyés en Chine. Et le 1er septembre 1939 en Pologne, campagne de Pologne, puis par l'entrée en guerre officielle de l'ensemble des grandes puissances de l'époque, France, Royaume-Uni et leurs empires, dès le 3 septembre 1939, URSS à partir de l'invasion allemande de juin 1941, États-Unis le 7 décembre 1941 dans un conflit impliquant la majorité des nations du monde sur la quasi-totalité des continents. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants et 61 nations, déployant les hostilités sur quelque 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. N'opposant pas seulement des nations, la Seconde Guerre mondiale fut la première grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Donc on peut appeler ça une guerre totale. Elle gomma presque totalement la séparation entre espace civil et militaire et vit dans les deux camps la mobilisation poussée non seulement des ressources matérielles, économiques, humaines et scientifiques, mais aussi morale et politique dans un engagement des sociétés toutes entières. Elle connut de multiples crimes de guerre qui ne furent l'apanage d'aucun camp, crimes s'insérant dans une violence militaire et policière d'une intensité et d'une profondeur inégalées. Elle vit également l'émergence à une échelle inconnue jusqu'alors de crimes de masse particulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figure la déportation en camps de concentration, camps de travail et camps de la mort, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes ou de catégories particulières d'individus, homosexuels, handicapés, commandés par le régime nazi. Le régime Showa, qu'on appelle ça parce que c'est sous l'empereur Hirohito,
d'accord,
ne fut nullement en reste en Asie avec à son actif 10 millions de civils chinois enrôlés de force par le Kuomintang au Manchukuo. C'est en Chine du Nord-Est,
ouais.
Mandchourie et compagnie. environ 200 000 femmes de réconfort enrôlées en Corée et dans tout l'extrême-orient, ainsi que l'annihilation systématique des populations civiles, principalement en Chine et notamment lors du massacre du Nankin. Il faut rajouter donc les meurtres systématiques de résistants et d'opposants politiques, ainsi que les représailles contre les civils par les nazis, les expérimentations sur des êtres humains auxquels se livrèrent des médecins nazis tels le SS Joseph Mengele et l'unité japonaise 731. Les bombardements aériens massifs de civils, d'abord par l'Axe, en Europe, notamment à Coventry, Angleterre, Rotterdam, et en Asie, Shanghai, Chongqing, c'est la ville la plus bombardée du conflit sino-japonais, puis par les Alliés, comme Dresde, Hambourg, Tokyo, avec du napalm. Pour la première fois, et aussi par les Alliés, notamment tout ce qui est Normandie, puisqu'il y a eu pas mal de... Notamment le Havre et tout ça, c'était tout
reconstruit à neuf. Brest aussi, hein, oui.
Et Caen aussi a pas mal morflé. Donc pour la première fois, la bombe atomique fut utilisée contre un pays. Deux bombes A larguées sur des cibles civiles par les États-Unis ont explosé le 6 et 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale propulsa les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs, comme les deux superpuissances concurrentes appelées à dominer le monde en même temps que de connaître une vive rivalité idéologique et politique pour près de 45 ans par la suite. Elle scelle le déclin des puissances impériales d'Europe et ouvre le processus de décolonisation qui ne fera que s'accélérer après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique jusqu'aux années 60. Enfin, ce dernier conflit d'ampleur sur le continent européen marquera par sa fin le début en Europe de l'Ouest d'une période de prospérité, ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, sans précédent dans la foulée de la reconstruction et l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Si l'on produit sans surprise un certain nombre de films de propagande pendant la guerre, beaucoup de réalisations visent d'abord à détendre les spectateurs dans une période très dure. Goebbels fit ainsi délibérément produire beaucoup plus de comédies musicales ou de films de style hollywoodien que d'œuvres proprement nazies. Staline commanda à Sergei Eisenstein le film Alexandre
Nevsky,
1938, transposant le conflit à venir avec la nation germanique dans le contraste des croisades baltes médiévales.
Oui, parce que ça raconte en fait le tsar contre les chevaliers teutoniques.
D'accord. Teuton.
Oui, bah, teutonique.
C'est bien. Aux États-Unis, ce sont les personnages de dessins animés qui prennent parti dans le conflit projeté avant les actualités cinématographiques. Ces derniers avaient un fort impact sur les opinions. Le plus connu, c'est donc Blitz Wolf de Tex Avery. Donc Bertrand Tavernier, en 2002, a réalisé un remarquable film de synthèse qui s'appelle Laissez-passer, consacré au milieu du cinéma français sous l'occupation, alors chapeauté par la société de production Continental Films sous contrôle allemand.
Donc effectivement, c'est vrai que ça fait sur plusieurs années, sur plusieurs continents, sur plusieurs pays, sur plusieurs façons, que ce soit la résistance, que ce soit les champs de bataille, que ce soit les prisonniers, que ce soit la Shoah. Donc il est vrai que c'est difficile à commencer. Donc moi, j'avais proposé, enfin du moins de mon parti...
Vous avez bien entendu.
Voilà,
c'est lui qui a proposé.
Oui, c'est moi qui ai proposé.
C'est moi, je, ici.
Si t'as un U2 qui tombe dessus, tu ne feras pas te méfier. Donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est très difficile à commencer, soit de faire carrément chronologique au niveau de l'histoire, mais c'est vrai que c'est un peu, au niveau de la résistance, c'est difficile de mettre un début ou comme la Shoah, quoique techniquement ça commence en 1940, hein, la Shoah. Le premier camp de concentration fait par Himmler, ouais, c'est à Auschwitz. Donc moi j'avais commencé par tout ce qui était ce qu'on cachait, c'est-à-dire que soit les missions secrètes, soit les espions et les diplomates. Donc en mission secrète, on peut commencer par alors je voudrais dire aux auditeurs et auditrices de prendre un crayon et un papier, parce que là il va y avoir du film, et donc des moins connus, des plus connus, des ceux que tout le monde connaît et ceux que tout le monde ignore. Donc le premier, c'est La Chasse à l'homme de Fritz Lang en 1941. Donc en 1939, Thorndike, qui est un célèbre chasseur britannique, parvient à s'infiltrer près du Berghof d'Adolf Hitler, le fameux nid d'aigle. Il va pour tirer, puis se ravise. Et là, il est capturé. Les nazis l'interrogent. Lui, il dit qu'il est là juste pour la beauté du geste, en tant que chasseur. Donc les nazis essaient de l'accuser d'un crime et comme ça de mettre son gouvernement en tort. Et puis lui, il refuse. Il voit qu'on va essayer de faire son suicide. Donc il s'échappe. Il revient en Angleterre. Il est poursuivi par des espions nazis. Et puis là, la guerre éclate et il décide de revenir en Allemagne et cette fois-ci de vraiment abattre son gibier. Il y a les rats du désert de Robert Wise en 1953. Donc en avril en 1941, les troupes du maréchal Rommel, donc le renard du désert de l'Africa Corps, s'approchent de Suez. Donc l'armée anglaise, amenée par le colonel Robert, Richard Burton, fait front et parvient à stopper l'avancée des Allemands à Tobruk. Ensuite, les canons de Navarone de John Lee Thompson en 1961, inspirés du roman de l'écrivain écossais Alistair MacLean. En 1943, les forces de l'Axe tiennent la mer Égée, rendant impossible l'évacuation de 2000 soldats britanniques de l'île de Quiros. Le détroit de Navarone, leur unique issue, est sous le feu de deux gigantesques canons qui sont sur la fameuse île de Navarone.
Tout à fait.
Voilà. Donc un commando de choc est envoyé de soldats anglais et grecs chargés de tout faire sauter. Un grand classique dans les commandos. Donc il y a Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn qui était donc lui toujours relégué au rôle de métèque puisqu'il avait fait Zorba le Grec. Puis il avait fait Onassis aussi et puis aussi il faisait aussi les Indiens. Puisqu'il avait la pommade, on ne prenait quand même pas des Indiens pour jouer les Indiens. Il ne faut pas déconner quand même à Hollywood. Et puis la fameuse Irène Papas, hein, qui est quand même une grande actrice grecque. Et puis on découle sur les 12 salopards de Robert Aldrich en 1967. Donc quelques temps avant le débarquement, 12 criminels. Pourquoi 12? Voilà, toujours le chiffre. Tous condamnés à mort, aux travaux forcés ou à une peine de prison, se voient confier une mission suicide en échange d'une amnistie.
C'est parce que, pour répondre à ta question, c'est parce que le nombre d'un jury, en fait. 12.
Ah, pas con, pas con. Donc voilà. Donc ils sont envoyés en France pour attaquer un château où sont installés une trentaine de généraux nazis. Donc leur but, c'est d'en massacrer le plus possible, évidemment, pour ébranler l'état-major germanique. Donc voilà. Et donc dans ce film, on peut voir Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas, le fameux Kojak, Donald Sutherland, Robert Ryan et Trini Lopez, pour ceux qui connaissent un peu plus sa carrière de chanteur.
Oui.
Voilà, oui, bah oui.
C'est un château vieux, ça.
Oui, mais enfin, bon, disons que c'est un film de 67. Hein, oui. Forcément, nous autres, jeunes, on connaît pas tous les acteurs. Voilà. Donc, enfin, du moins, ce qu'on appellerait communément les seconds couteaux. Donc, Tobruk, Commando pour l'Enfer, de Hiller, en 1967. Là aussi, hein, décidément, c'est tout dans les années 60. Hein, là, je sais pas pourquoi, il y a une petite vague. Sait-on jamais, une vague. Donc, alors que l'Afrika Korps, sous le commandement du maréchal Rommel, fait route vers le Caire, les forces britanniques, incapables de le contrôler, décident d'utiliser la ruse. Elles imaginent de déguiser des juifs pour les envoyer à Tobruk, détruire les réserves de carburant de Rommel. Donc on peut voir Rock Hudson, George Peppard, le fameux Hannibal de l'agence Tourisque, donc qui aimait tant qu'un plan se déroule sans accroc.
Oui. Qu'on retrouvera, excuse-moi de te couper, là, je vais rebondir avec monsieur Peppard.
Oui.
Parce qu'il a fait aussi Opération Crossbow.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Où il joue le rôle d'un scientifique qui doit faire exploser une usine. Enfin. Donc il permet, non, parce que c'est une usine souterraine et c'est ouais. Pour justement il doit actionner l'ouverture pour que les avions puissent bombarder, voilà, pour c'est... situer l'usine.
Ouais, non, mais ces missions elles sont toujours super chiennes et j'adore.
C'est un bon film d'espionnage. Hein,
oui, ouais. non, mais c'est toujours fait au poil de fion et ça marche jamais. Enfin, si ça marche quand même, mais bon.
Qu'est-ce ouais. que le bouffion vient faire ici?
C'est mon côté. Voilà.
Ça n'entrera pas dans les annales, ça.
Oui, non, je te le permets.
Mais toi, tu vas faire ton trou, toi. La Brigade du Diable.
Merci,
de
Marc.
MacLean.
Reste sérieux, s'il te plaît.
Donc, la Brigade du Diable de MacLean.
Macache Wallou ?
Non, McLaglen, en 1968, en été 42, alors que les nazis mettent l'Europe à feu et à sang, le lieutenant-colonel Robert Fredericks, William Alden, se voit la mission délicate de former et d'entraîner la première unité de force spéciale de l'armée américaine. Formation faite de rebelles et de condamnés de droit commun, spécialisés dans les missions périlleuses. Les Allemands les nommeront Brigade du Diable. Un avant-goût d'Inglorious Bastard, sans doute. Ensuite, il y a l'attaque sur le mur de l'Atlantique, de White Coast, en 1968. On y tient toujours, les années 60. Hein. Faites la paix, pas la guerre, hein, c'était ça ?
Oui, oui.
En été 1942, un officier anglais est placé à la tête d'un commando qui doit opérer sur les côtes de France. Ensuite, il y a les Quand les aigles attaquent, vous écrivez toujours, hein, de Brian G. Houghton en 1968. Allez.
En même temps, ceux-là, on en avait déjà parlé, parce que quand on avait parlé avec Clint Eastwood.
Voilà, c'est vrai. Bah oui, parce qu'en 1944, un commando britannique est parachuté en Autriche, près du village de Werfen, dans le land de Salzbourg, à 40 km du fameux Berchtesgaden du Honig d'aigle de Hitler, pour récupérer un général américain prisonnier dans la forteresse nazie, le Hohenwerten.
Il faut dire aussi que c'est important parce qu'il détenait les plans du futur débarquement, Overlord.
Voilà, l'opération Overlord. Le Hohenwerten, donc le fameux château des aigles. Mais très vite, deux membres meurent et il semble qu'au moins trois autres jouent un double jeu. Film avec Richard Burton, qui est donc un classique du genre, Clint Eastwood, donc voilà pourquoi on en avait
tout
parlé.
Tout jeune à l'époque.
Ouais, tout jeune, il est vrai, il est vrai. Ensuite, on a une poignée de salopards d'Enzo Castellari. En 1978, en France en 1944, quatre soldats américains et un lieutenant désertent. Ils se retrouvent malgré eux chargés d'une mission périlleuse. Ensuite, on découle sur l'or pour les braves de Brian J. Houghton encore en 1970. En France, Kelly, Clint Eastwood, ancien lieutenant rétrogradé, capture un colonel du renseignement allemand. Il remarque des lingots. Le prisonnier meurt, mais il a avoué avant où seront stockés 14 000 lingots. À Clermont en Argonne. Kelly recrute Big Joe, Tilly Savalas, Crab Game, l'escroc Don Rickles, et un anachronique hippie commandant un char Sherman, Old Ball, le cinglé Donald Sutherland. Donc là apparaît un général Colt, Carol O'Connor, qui croit que eux ils sont partis à carrément botter le cul des Allemands.
Oui.
De peau, voilà, eux ils sont juste là pour les lingots. Ils se retrouvent donc devant ce fameux village. Manque de peau, il y a des tigres allemands.
Alors,
les
tigres, c'est un char, hein, faut le préciser, voilà, pas des tigres.
Oui, bon, c'est-à-dire que l'Allemagne ne brille pas par sa présence de tigres non plus. Kelly convainc un officier allemand de les aider, de se partager le lingot, et ils se partageront le lingot pendant que ce sera la fiesta. C'est que le fameux Colt débarquera, pas Colt Sivers, hein, pas l'homme qui tombe à pic, mais le général en leur mettra dans des médailles, mais ils ne seront plus là pour les recevoir. Ensuite, il y a le commando de Sa Majesté, de McLaglen encore en 1980, dans le port de Gao. En 1943, un navire allemand espionne les navires alliés. Un petit groupe d'hommes habillés en civil sont envoyés à bord du navire afin de détruire leur système de transmission. On retrouve Gregory Peck, Roger Moore, David Niven, Patrick McNee, le fameux chapeau melon et bottes de cuir. Alors moi je l'avais
John Steed.
Voilà, John Steed. Alors moi je l'avais marqué parce qu'effectivement, à cette époque, en 1980, ils étaient tous un peu vieillissants. Donc c'était un petit peu le côté nostalgique de tous ces hommes qui ont fait tous ces films. Certains comme David Niven ou Gregory Peck, qu'on a connu quand même dans pas mal de grands films surtout. Et donc moi c'était surtout l'occasion de faire un petit hommage à tous ces vieux de la vieille, hein, comme dirait l'autre. Ensuite, on va tomber dans les espions, non pas qu'on aimait ni avec leur double 7, enfin du moins la double 07.
Prochainement.
Voilà, prochainement, bientôt il va nous tomber du ciel. Et diplomate, donc correspondant 17 d'Alfred Hitchcock. Donc tu vois, là aussi, grande pointure. En 1940, je crois que d'ailleurs c'était son second film. John Jones, journaliste américain du New York Globe, est envoyé en Europe en 1939 pour évaluer l'éventualité d'une seconde guerre mondiale. À Londres, il fait la rencontre de Van Meer, un vieil homme politique hollandais, seul à connaître la clause secrète d'un traité d'alliance. Mais après un attentat simulé, Van Meer est enlevé par des espions nazis. Jones se lance à sa recherche, le fameux « à la recherche de... » Van der Meer perdu. Alors Casablanca de Michael Curtis.
On fait Beauregard.
Ouais, en 1940. Beauregard, oui.
Beauregard.
Alors à Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le nightclub le plus connu est tenu par Rick Blaine, Humphrey Bogart. un Américain en exil, mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer des papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, la fameuse Ingrid Bergman, hein,
ah là là.
Quelle n'est pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie. Alors, moi, c'est surtout ce film-là où il y a cette fameuse séquence où les gens chantent à la Marseillaise devant des officiers oui. allemands. Quand même assez connu, celle-là. Il y a La Cinquième Colonne, de nouveau d'Alfred Hitchcock en 1942. Alors, ça, c'est des films qui sont donc faits à l'époque de la guerre, hein, qui sont quand même assez importants. En 1940, un ouvrier américain est accusé d'avoir saboté une usine d'armement. Aidé d'une jeune femme, il parcourt les States pour démasquer le véritable coupable, un agent nazi. Ça fait partie un petit peu du projet qu'adorait notre cher Alfred. C'est-à-dire que le type, il est accusé de quelque chose et qu'il faut qu'il démontre aux autres que bah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Le sabotage à Berlin de Raoul Walsh, 1943. Raoul Walsh, on en a parlé lui.
Oui, oui. Les westerns.
Voilà, c'est ça. L'équipage d'un bombardier de la RAF, la Royal Air Force, est abattu au-dessus de l'Allemagne. Les cinq rescapés s'organisent et se mettent à la recherche d'un avion pour rentrer en Angleterre. Mais sur leur route, ils multiplient les sabotages. Donc, ils sabotent les installations nazies qu'ils rencontrent. Il y a Errol Flynn.
Notre fameux Robin des Bois.
Voilà, c'est ça, hein, qui, pour une fois, ne pourrait pas se pendre un lustre.
Il était en collant, là, non?
Non, je crois pas. Et un acteur de talent connu partout, Ronald Reagan.
Ah oui ?
Eh oui !
Oh là là !
Eh oui, eh oui ! Et Nancy Coleman. Et ensuite, il y a Intrigue en Orient, toujours de Raoul Walsh, en 1943, donc à Ankara, puisqu'il y avait aussi les Turcs quand même.
Oui, bah oui.
Un agent américain tente d'empêcher une alliance entre la Turquie et l'Allemagne. Il y a Espion sur la Tamise de Fritz Lang, 1944, que des connus. À Londres, un homme entre en possession d'un microfilm. Ah, les microfilms qui ne lui sont pas destinés. Des espions nazis le traquent pour récupérer le précieux document. Cap et poignard de Fritz Lang en 1946. Donc un Américain, le professeur Jasper, Gary Cooper, tente d'enlever un savant italien des mains des Allemands. Parce que le chercheur vient de mettre au point la formule de la première bombe atomique. Voilà, La Scandaleuse à Berlin de Billy Wilder en 1948. La très austère Phob Frost, Jean Arthur, est envoyée à Berlin en 1946 pour enquêter sur la moralité des troupes américaines d'occupation. Elle ne découvre que marché noir et relations amoureuses entre soldats et jeunes allemands du moins. Elle rencontre un officier, Briegel, John Lude, qui est l'amant d'une chanteuse de cabaret, Erika von Stultow. Marlène Dietrich, et qui a eu, elle, un sacré passé nazi. Donc Briegel joue l'amoureux avec Phoebe pour l'éloigner, mais se prend au jeu et veut même quitter sa fameuse Erika. Manque de peau, son ex-amant Erika, Hans Otto Brog, un nazi, refait surface. Et donc, commandement ordonne à Briegel de poursuivre sa relation avec la chanteuse pour attraper Otto.
Je vais parler des héros de Télémarque, alors.
Tu considères ça comme un film d'espionnage, toi?
Bah oui, parce que c'était sur l'eau lourde.
Ah oui, tout à fait, oui, oui,
c'est
exact, exact.
De,
oui, oui,
c'est
exact.
La bataille de l'eau lourde.
Voilà, c'est ça, la fameuse.
Oui, donc c'est l'héros de Télémarque, donc d'Anthony Mann, 1965,
mm-hmm.
avec Kirk Douglas.
Oui.
Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est les Allemands produisent de l'eau lourde à Télémarque, en Norvège, dans le but de fabriquer la bombe atomique. Les forces britanniques délèguent un petit commando qui a pour mission de s'introduire dans l'usine de Télémarque afin de détruire la dangereuse production ennemie. En fait, c'est un film qui a été inspiré de la bataille de l'eau lourde. Donc, puisque, comme le démontre dans le film, donc, il y a d'abord eu un commando avec des planeurs, mais bon, manque de peau, il y en a un qui s'est écrasé et l'autre qui a été abattu, je crois.
Mmh.
Et donc, la deuxième fois, donc, ils sont introduits dans l'usine, ils ont stoppé un peu la production, mais ça n'a pas suffi. Et après, donc, pour rapatrier tout cela en Allemagne, donc, ils ont choisi de mettre ça sur un ferry et c'est justement là qu'ils ont mis une bombe donc, sur le ferry, c'est là qu'ils ont pu faire couler la précieuse cargaison. Et c'est tiré d'un fait réel. Hein.
Voilà, oui, oui, parce que je m'en. Oui, oui, il y avait tout ce qui était en Norvège.
Puisqu'au début, je crois que même au début, je crois avant la guerre, c'était les Français qui voulaient racheter le stock de la précieuse eau lourde.
Oui, et puis il y avait toute cette aussi, parce qu'il y avait pas mal de pétrole, il me semble. Oui, en Norvège, oui, il y avait pas mal de pétrole. Et donc, les Allemands avaient vite attaqué la Norvège pour le pétrole. Et que les Français avaient envoyé des expéditions. Manque de peau, comme il y a eu la chute de Dunkerque, qui les avait vite rapatriés. Donc, ben voilà, la Norvège était devenue allemande. Oui, il y avait aussi...
comme la Finlande.
Voilà, c'est ça. Oui, non, mais la Finlande, elle avait eu la guerre avec les Soviétiques.
Oui, ils avaient récupéré un bout, je crois.
Oui, ils avaient récupéré un bout.
Parce que la Suède était neutre, comme
voilà,
la Suisse.
Voilà. Et puis, ouais, parce qu'il y a aussi une histoire d'eau lourde, c'est dans le film qu'on parlera peut-être un peu plus tard, parce que là, ça fait partie aussi de Résistance et Collaboration. C'est le film Bon Voyage aussi, de Jean-Pierre Rapneau.
D'accord.
Là aussi, une histoire d'eau lourde. Moi, j'avais aussi l'affaire Cicéron, de Joseph L. Mankiewicz. Ça tape que du lourd hein, au niveau des réalisateurs.
Oui.
En 1950, donc en 1944, Diallo, James Mason, sert un ambassadeur à Ankara, en Turquie. Il en profite pour livrer des photos et des documents secrets alliés aux nazis, sous le nom de code Cicéron. La comtesse polonaise Anna Tabiska, moi ça me fait marrer parce que ça me fait un petit peu la Svatiska, c'est la fameuse, le symbole, c'est le symbole... Le fameux croix gammée,
ah.
C'est la Stavisca, juste qu'elle est décalée. Donc là, ça fait marrant, cette Anna Stavisca. Et en fait, elle fait mine de l'aider. Et cette Anna n'est autre que Daniel Darieux.
Oh là.
Et oui, donc voilà. Ensuite, j'ai un film un peu plus récent, Europa, de Lars von Trier, avec Barbara Sukowa, une égérie de la nouvelle vague allemande des années 80, Léopold Kessler, Jean-Marc Barr, qui est enfin sorti de l'eau, américain d'origine allemande, débarque à Francfort en 1945, dans une Allemagne ravagée par les bombardements alliés. Grâce à son oncle allemand, il décroche un emploi de contrôleur de wagon-lit dans la compagnie ferroviaire Zeutropa. Autour de lui, les blessures de guerre tardent à se refermer. Et c'est dans ce climat qu'il rencontre Katrina, la fille du dirigeant de Zeutropa. Donc voilà. Et puis il y avait le dernier, Amen, de Costa Gavras, en 2002. Donc
chef-d'œuvre.
Voilà, tout à fait. Kurt Gerstein, Ulrich Tukur, qu'on a vu dans Le Cochon de Gaza ou dans Le Ruban Blanc. Un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, Ricardo Fontana, monsieur Kassovitz, tente d'informer le pape Pie XII, Marcel Junès, et les alliés du génocide des juifs organisé par les nazis, dans des camps de concentration. Voilà. Donc c'est évidemment, ça pose toujours le problème de la position du Vatican durant la guerre. Alors certains, paraît-il, ont aidé, d'autres ont plutôt fermé les yeux.
J'ai l'impression que plus on allait, tout ce qui était curé, tout ça, ils ont plus protégé, plus on montait dans la sphère hiérarchique, plus ça m'agouillait.
C'est-à-dire que c'est toujours plus simple, oui, parce que au revoir les enfants, c'est quand même un curé qui est nickel. C'est vrai que je pense que c'est toujours un petit peu pareil, je veux dire, au Vatican, ils étaient protégés, ils étaient dans leur Saint-Siège, hein. Et donc, par contre, les curés, eux, ils vivaient vraiment quoi,
oui.
les choses. Quoi.
On attaque la guerre.
On attaque la guerre. Yar Zerkout.
Donc, nous allons attaquer dès 1940.
Voilà, tout à fait.
Donc, Gwen va vous parler de la retraite de Dunkerque.
La retraite de Dunkerque. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que les Français...
Trop sur deux,
quoi. Surtout que...
Bon, et mal encadré.
Oui, il y avait
ça.
Bah, disons qu'il y avait aussi le côté où ils se croyaient que les Allemands allaient candidement se jeter sur la ligne Maginot. Puis que, bah non, ils n'ont pas fait.
Ils sont passés par les Ardennes, je crois,
voilà,
en
c'est
char.
Oui, oui, alors que les officiers français avaient dit, bah non, c'est trop compliqué. Bah oui, ben un char, ça, c'est ce qui est pratique, c'est que ça passe partout. C'est con. Et donc, ils ont essayé d'éviter qu'on refasse de nouveau 14-18. Et donc, ils sont partis vers la mer. Et là, ils se sont retrouvés coincés. Et c'est grâce à des divisions françaises. Hein, puisqu'on,
françaises ou anglaises, je ne sais
pas. Il y a des françaises et des anglaises, mais c'est surtout les françaises hein, qui ont résisté. Alors, je ne pourrais pas te dire les divisions. Hein, là, je ne suis pas assez précis là-dessus. Mais c'est quand même elles qui ont résisté magnifiquement contre les Allemands, puisque ça a permis justement à tout plein de petits bateaux et de grands navires de venir chercher...
Les Anglais principalement, il faut le dire.
Bah oui, mais c'est un peu normal, c'est un petit peu le...
Il y a eu quelques troupes françaises
voilà,
aussi.
C'est ça, et autres, parce qu'il y avait d'autres nationalités aussi. Mais c'est ce qui a permis un peu de sauver la guerre, puisque si ces soldats avaient été capturés, la guerre aurait été terminée plus tôt. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les Français avaient capturé, il me semble, des pilotes allemands et que les officiers anglais avaient demandé à avoir pour les envoyer au Canada et que ben ils ont été libérés et que ben voilà ils ont participé à ce que sera plus tard la fameuse bataille d'Angleterre. Donc voilà. Alors il y a le fameux week-end à Zuidcot
avec notre fameux Jean-Paul Belmondo.
Voilà. D'après un roman de Robert Merle qui lui avait été fait prisonnier justement à Dunkerque en juin 40. Et ça a été fait par Henri Verneuil en 1964. Donc en juin 40, durant la bataille de Dunkerque, des soldats britanniques et français tentent d'embarquer pour l'Angleterre. Donc il y a Jean-Paul Belmondo et notre Jean-Pierre Marielle aussi.
Ah oui.
C'est vrai que celui-là, il est pas mal.
Il est bien fait.
Ah non, mais il est bien fait. Après,
pour dire, parce que suite à ça, donc, je crois, parce qu'il y a eu aussi de la résistance belge qui ont souffert de ça. Et il y a eu aussi l'état-major français qui en a voulu aux Britanniques. C'est là que ça a commencé un peu les tensions entre...
Je dirais que quand Hitler s'est lancé aussi dans toute cette blitzkrieg, c'est-à-dire qu'ils se sont...
La guerre éclair.
Voilà, la guerre éclair. C'est vrai que beaucoup de pays sont tombés assez rapidement, hein, les Tchèques, après la Pologne, c'est autre chose. Après, il y a eu tout la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Après, il y a eu des ouï-dire comme quoi que si les Français avaient attaqué à ce moment-là, Hitler il se serait trouvé très très mal parce qu'ils étaient vraiment en bout de course. Pour tout oui. Ce qui était ravitaillement, puisque ça allait tellement vite que le carburant avait du mal à venir. Donc là aussi, ce qui sera aussi le problème à l'Allemagne, au niveau des
et dans les Ardennes, le sursaut.
Et aussi en Russie, là aussi. Donc voilà, et c'est vrai que, parce que ce qu'il faut noter quand même, c'est que la première attaque quand même a été française. La France a rentré 8 km en Allemagne.
Oui.
Et les premiers exilés, ceux qu'on a vus sur les routes, c'était pas non pas des Français, mais bien des Allemands. Mais comme il n'y avait aucune direction, on s'est arrêté là. Et c'est le fameux général, enfin je ne me rappelle plus si c'était un caporal ou celui qui a dirigé le truc, est devenu chef de la milice plus tard, puisqu'il a été dégoûté et qu'il a décidé de servir la France, mais par son biais, quoi. C'est-à-dire vraiment les valeurs françaises dès l'époque. Voilà.
Ah, c'est pas le Darnan ou Darnan ?
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà,
Darnan.
Voilà, c'est ça. Et lui, parce qu'il avait été dégoûté. Oui, parce
que... Oh là là, l'horreur.
Ouais, oui. Ben, il s'est dit que la France, que tous les grands chefs, et c'était des pourris. Donc, il fallait qu'il serve sa France à lui. Donc, voilà. Donc, il a fait les milices.
D'accord.
Donc voilà, et effectivement, donc on se lance ensuite dans la bataille d'Angleterre, puisque c'est ces fameux grands films de guerre, donc de Guy Hamilton en 1969. Donc voilà, après l'écroulement de la France, le Royaume-Uni se retrouve seul face à la puissance nazie. La Royal Air Force est le maigre barrage avec à peine 600 chasseurs contre la Luftwaffe, les Henkel, les Messerschmitt, contre les Hawker, les Hurricane et les Spitfire. Il y a Michael Caine, Laurence Olivier, Christopher Plummer. Et donc, ils sont aidés par des pilotes exilés, notamment des Polonais. Beaucoup de Polonais, hein, c'est marrant. Des Tchèques et quelques Français. Donc voilà. Et il y a le fameux... Parce qu'après, Hitler décide du bombardement de Londres. Et en vengeance de cela, évidemment, les Anglais bombardent Berlin. Ça me rappelle, tu sais, quand il y a eu VU Pearl Harbor.
Oui.
Et que les Américains avaient décidé de bombarder Tokyo. Ils avaient fait aussi une mission suicide. Mmh. Voilà. Donc là aussi, hein, vengeance, on t'a bombardé ma capitale, je bombarde la tienne. Ena. Voilà. Ce qui s'appelle la guerre psychologique.
Donc il faut dire que pour rendre l'aspect plus près, on va dire, des avions. Donc il y avait un avion qui avait, je crois que c'était un bombardier, je ne sais plus quel nom. Enfin, un vieux bombardier, ils avaient mis une caméra à l'avant et une en queue. Et justement, il avait bien coloré, quoi. Pour bien le différencier, tu sais, pour pas que les autres pilotes le rentrent dedans là, pendant les scènes.
Oui, c'est mieux, ouais.
Et il y avait aussi certaines scènes qui étaient filmées en hélicoptère. Mais c'était vraiment énorme pour l'époque, hein, ce truc. Hein.
Ah oui, c'était un très gros budget. Hein. Ça, c'était, il me semble que c'est l'un des films anglais. Enfin, ça a dû être dépassé depuis, il est vrai. Notamment avec les James Bond, mais voilà quoi. Voilà, je voulais juste un petit coucou comme ça.
Coucou.
Voilà, le fameux film Reviens-moi de Joe Wright en 2007. Qui en fait est une petite histoire d'amourette. Hein. Donc en 1935, une fille de 13 ans, Brian Tillis, qui est joué par Cyrus O'Ronan, et sa famille vivent bien. Brian va devenir romancière lorsqu'elle aperçoit sa sœur Celia dans les bras d'un domestique, Robbie, qui est joué par Jack McAvoy, le fameux professeur X hein, du dernier X-Men. Et la frangine n'est autre que Keira Knightley. Sa jalousie va la pousser à l'accuser d'un acte qu'il n'a pas commis. Robbie sera emprisonné, puis envoyé sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, et lui, il va essayer de tenter de survivre. Et voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est un film, à mon avis, à voir. Mais bon, surtout pour le côté romantisme. Voilà. C'était mon côté, j'aide les Tommies. Les fameux Tommies, c'est les soldats anglais. D'accord.
Non, j'avais pas à t'aider, hein, c'est ta phrase.
Donc voilà, c'est
donc,
très bien.
Gwen va nous parler du débarquement américain en Afrique du Nord, qui s'appelait donc l'opération Torche, le 8 novembre 1942.
Alors là, pas du tout, excuse-moi. Là. T'es gentil mon petit pépère, mais non, non, moi je veux bien te parler à la rigueur du film. Voilà, voilà, le fameux Al-Alamein, enfin, voilà. Enfin, moi j'en ai deux, trois, hein, sur, c'est des vrais gros, gros combats, quoi. Donc, on a la fameuse bataille d'Al-Alamein, à part si tu veux te lancer sur l'opération Torche avant, hein, moi ça me dérange pas.
Torche à quoi?
L'opération. Oui, parce que là aussi, hein, j'ai vu qu'il y en avait pas mal des opérations et
oui.
des noms, voilà. Donc, la fameuse bataille d'Al-Alamein de Giorgio Ferroni, en 1969.
Ah, mais c'est pas là où c'est les Italiens qu'on sacrifie pour protéger la fuite des Allemands, non?
Comme toujours, mon petit pépère. Hein.
En même temps, voilà. Les Italiens, dans cette guerre, ont pris quand même de sérieuses branlées.
Oui, c'est tout à fait. Même déjà par les officiers.
Parce qu'au début, je crois, de la guerre, c'est les Italiens, ils ont essayé de faire une percée en France, ils ont fait quelques kilomètres et voilà.
Oui, et puis ils sont arrêtés par les chasseurs alpins français.
Ils sont allés en Grèce, ils ont pris une déculottée, c'est les Allemands qui sont venus.
C'est comme là quand
ils sont. Et en Éthiopie, quand
voilà, ils sont. Voilà, disons qu'ils ont gagné parce que. Et techniquement, ils étaient militairement supérieurs.
Par contre, là, puisqu'on en parle de faits réels, donc il y a eu en Belgique, enfin, hop, et ça a continué la guerre, mais au Congo belge.
Oui, aussi, oui.
Et donc les Italiens aussi ont pris des roustes, puisque les Belges ont gagné.
En 1942, à Al-Alamein, le général Montgomery tente d'arrêter Rommel et ses troupes. Bientôt, les Allemands sont bloqués par manque de carburant. Ah, ce carburant, décidément. Une aubaine pour Montgomery qui, au lieu d'attaquer immédiatement, attend des renforts dans l'espoir de livrer une bataille décisive. Et c'est Robert Hossein qui joue Rommel.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Sans la balafre, hein, par contre. Sans sa marquise.
C'était après, je crois. Donc.
Voilà.
C'est de retour du désert.
C'est là qu'il s'est fait sa balafre. D'accord.
Ne mélangez pas tout, vous allez perdre l'auditeur déjà que est triste.
Ah non, ben oui, mais c'est large, forcément. Mm-hmm. Donc voilà.
C'est toi qui as voulu aller en Afrique.
Oui, non, mais moi, moi c'est surtout.
Oui, c'était important de rebondir, parce qu'après de l'Afrique, ils sont repassés via la Sardaigne.
Voilà, c'est ça, oui, il y a la campagne d'Italie, là, on va en parler quand on parlera des films italiens, quoi. Mais c'est vrai, et puis le débarquement en Provence aussi.
Voilà. Donc, ça, c'est après le débarquement.
Voilà, et puis le fameux personnage de Patton, de Franklin G. Chanefer, en 1970. Joué par George Shea Scott, avec Carl Maiden, donc la vie du général rebelle dans l'armée américaine, mais reconnu comme le génie de stratège. En 1943, Patton est envoyé à Tunis afin de reprendre une situation difficile, l'armée US ayant du mal à prendre le dessus sur l'Afrika Korps nazi. Il enchaîne les succès, mais refuse de laisser les lauriers de sa victoire au maréchal Montgomery, des forces britanniques. Il est alors relevé de ses fonctions et devra attendre plusieurs mois avant de prendre la tête d'une division. C'est le fameux qui avait un Colt, c'est ça?
Oui, c'est ça, monsieur.
Voilà, c'est ça, c'est le fameux. C'est vrai que c'était quand même un sacré personnage, mais je pense que la guerre a révélé.
Il a fini dans un placard, lui.
Oui, bah oui.
Enfin, dans un placard, je m'entends parler.
Oui, non, mais bah, c'est-à-dire grande gueule et
ça n'allait pas, oui. On l'a retrouvé à Bastogne, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui. C'est un sacré film, celui-là aussi. La bataille des Ardennes, ça a été un.
Moi, je vais, puisque avant que tu en parles là, sur l'Italie, c'est un film qui a fait, par exemple, on voit des soldats qui arrivent donc en Afrique. On les retrouve en Sardaigne, ils font l'Italie, après on les voit en Normandie et ils finissent, ils font toute la guerre en fait, si tu veux.
D'accord.
Donc ce film s'appelle Au-delà de la gloire, de 1980, de Samuel Fuller. Dedans on retrouve Lee Marvin et Mark Harrell. Donc c'est de jeunes soldats confrontés aux horreurs de la guerre, perdant toute sensibilité dans la lutte pour la survie. Et je vous le conseille celui-là, il est vraiment très 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 bien, puisque le film termine avec... la découverte des fameux camps. Donc, je vais vous parler de l'arrivée en Corse de la mission secrète Pearl Harbor par le sous-marin Casabianca pour préparer le fameux débarquement qui aura lieu le 9 septembre 1943. Donc, cette arrivée de mission secrète, c'était le 14 décembre 1942, puisque le premier département français libéré de l'occupant, c'était le 4 octobre 1943. Voilà, c'était juste un petit...
D'accord.
Okay. Les forces françaises, on a trouvé des forces françaises d'assaut, donc qui étaient dans le fameux sous-marin Casabianca, qui est toujours en Corse. Nous allons retrouver donc le fameux film Un jour...
Le plus long.
Oui, le jour le plus long. Le The jour... Day D, The Débarquement oui, D. Enfin, si vous avez eu la chance de visiter les fameuses plages.
Voilà, c'est ça.
L'opération Overlord.
Avec tout plein d'acteurs, hein. Ça c'est un sacré film celui-là.
Je n'ai pas de synopsis, moi.
Bon, le film avait été fait par Ken Anakin,
oui.
Andrew Mutton, Bernard Wicki, Jen Oswald et le fameux Daryl F. Zukin. On a parlé la semaine dernière.
Oui, c'est vrai.
Celui qui n'aimait pas Marilyn.
Oui, aussi.
Effectivement, on a tous les préparatifs et le déroulement du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Un parfait exemple du All-Star Cast.
Oui.
C'est-à-dire une super production, réunissant le plus grand nombre possible de stars au mètre carré d'écran ou de décor. Que même un simple soldat américain a le visage de Polanka. On comprend que la restitution historique n'est que le prétexte pour le jeu, très plaisant d'ailleurs, d'identifier des visages connus entre deux scènes spectaculaires. Parce qu'effectivement, comme disait Hugo, on a John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Rod Steiger, Robert Wagner,
oh là là.
Richard Burton, Sean Connery oui, sure. Gert Frobe, Kurt Jorgen, Peter Lawford,
Bourville, qui joue le maire de Colville-sur-Mer.
Colville, Jean-Louis Barrault, Arletty, Madeleine Renaud. Donc effectivement, voilà. Et puis il y avait Maurice Jarre.
C'est la musique, non? Pas Maurice Jarre.
Oui, Maurice Jarre et la musique aussi de Palanca. Il y avait, il me semble aussi, Guy Marchand qui jouait partie d'un parachutiste.
Ah bon?
Voilà, après il y a effectivement... tout plein d'incohérences.
Oui, il y a eu beaucoup d'anachronismes.
D'anachronismes.
Que ce soit sur les tenues, les voitures.
Oui, et puis les gens qui atterrissent sur des clochers là où ils ne devraient pas. Bon, il y a aussi Pauline Carton, pour ceux qui connaissent. Mais c'est vrai que ça. Bah, disons
c'est
que
la sœur à Marseille.
Oui, voilà.
C'était un des, tu sais, des fameux otages de Cuba.
Oui, d'accord.
À l'époque.
Mais non, bah, disons qu'après ça reste vraiment une film hyper classique, soit parce que là effectivement ça
fait penser un peu à la tour infernale, tu sais.
Ouais,
il y a
voilà.
Beaucoup de, comme tu dis, de
moyens oui,
cast.
Voilà, ça dure 170 minutes. Bon, là c'est vraiment, je dirais que c'est l'avantage et l'inconvénient du cinéma à grand budget et américain, c'est-à-dire qu'effectivement on prend une pléiade de stars, on fait le film, on essaie de s'approcher le plus possible. Donc je trouve pas ça impersonnel, ça a le mérite d'exister et c'est très bien. Après moi c'est pas mon préféré parce que je trouve ça voilà.
Oui, la scène du débarquement est.
Bah, moi, ouais. Oui, et puis voilà, et puis moi je trouve.
Enfin, on montre pas tout, tu vois, le style, tu sais, les chars voilà. Qui ont coulé, amphibies, là, qui n'étaient voilà. Pas étudiés, parce que bon, parce qu'ils ont quand même réussi à percer, non pas aux, enfin, si, aux hommes, parce qu'il faut le dire, dans les premières heures, tous les officiers sont faits descendre.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que là, on était sergent et on pouvait se retrouver 20 minutes après lieutenant. Donc c'est souvent dû à la bravoure de certains hommes et surtout de sous-officiers qui ont su motiver.
Et puis les petits trucs aussi qui débarquaient, là, qui étaient pile en face des mitrailleuses quoi. Donc dès que ton petit bateau il s'ouvrait, boum, tout le monde se faisait buter, oui. C'était génial.
Oui oui, t'es même pas le temps de sortir de la barge.
Ouais.
D'ailleurs je pense que la scène la plus réaliste du débarquement c'est quand même celle du il faut
sauver le soldat Ryan. Ah, moi je suis tout à fait d'accord, le film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, et effectivement moi pour moi c'est ce qui est le plus réaliste, parce que je veux dire, au début, il est vrai que bon, tous les films des années 60, bon, effectivement, c'est une film de guerre, le mec, on tire une balle, il meurt, bon, normal jusque-là. Mais c'est vrai que de plus en plus qu'on avance, effectivement, de plus en plus, peut-être merci à Mel Gibson, sait-on jamais, on essaie de faire des films où, effectivement, bon, la guerre, bah, c'est moche, hein, ouais, les mecs, ils se blessent et ça fait mal. Voilà, donc, effectivement, c'est quand même. Bien de pouvoir le montrer celui-là.
Donc le jour le plus long, il existe aussi une version colorisée, je crois maintenant. À l'époque, je trouve que c'était quand même bien.
Ah non
fait.
Non, mais c'est, non,
pour
c'est
remettre
bien.
La chose. Hein.
Non, mais je suis d'accord. Mais après, j'ai l'impression un peu s'y perdre, quoi. Tu vois, quand t'as tellement de comédiens comme ça, tellement de plans, j'ai l'impression un peu de se perdre. Alors, si tu connais l'histoire, ce qui est un peu notre cas, ça va. Mais quand tu connais pas, nom de Dieu, t'es paumé. Alors, tu dis, oh, c'est une connerie, oh, c'est machin, ouais, oh, c'est machin. Et puis voilà,
c'est tout marqué, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même tous les décors sont respectés. Il y a la pointe du Hoc. Enfin, je sais pas si t'as visité les plages de Normandie. Toi.
Non.
Tu connais pas.
Non, désolé.
Donc, je ne parlerai pas avec toi.
Merci.
Je m'adresserai aux auditeurs tristes. Mais je pense qu'il y a quand même des bons trucs. Quand même. Après, bon, comme tu dis, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'anachronismes. Parce qu'il faut, je pense, à faire moins de fois dans sa vie quand tu te mets à... Tu vois, parce que c'est quand même... c'était une butte, hein, Omaha. Moi, je parle d'Omaha. Hein.
Oui.
Parce qu'après, Juneau et tout ça, là, bon, t'arrives en,
oui, c'est...
en ville.
Il y en a d'autres qui ont été plus simples.
À Ouistreham, voilà, c'était plus simple. Quand on est en haut de cette butte, c'est là que tu te rends compte que bon, ça a été modifié maintenant, puisque oui, ça a été aménagé, tout ça,
normal.
Tu peux circuler. Mais il faut voir à l'époque, ça devait être brut et je pense que ça devait quand même bien.
Moi, je veux dire, c'est comme quand tu vas à Verdun.
Oui.
Dire, c'est des lieux d'histoire.
Parce que quand on voit justement le très célèbre qui est passé sur France Télévisions, là, de documentaire Apocalypse, ils en parlent dedans, là, puisqu'il y a un mitrailleur allemand qui fait une interview. Là, justement, il disait que il faut voir le nombre de cartouches qu'il avait à côté de lui. Il trouvait même. Je crois qu'il en était dégoûté, quoi, parce qu'il disait, il voyait ces pauvres types qui s'avançaient sur sa mitrailleuse, et je crois qu'il en a descendu, je sais pas combien, quoi.
Oui, non, mais bah,
même eux, ça les mettait mal à l'aise, quoi, tu vois.
Bah, c'est...
parce que c'était vraiment la boucherie, quoi.
Voilà, bon, tu me diras sur les plages au Japon, c'était pas.
Parce que je crois que sur Omaha, il y a eu quand même 2000 morts, je crois, il me semble, hein, sur cette plage-là.
Bah, c'est-à-dire que les mecs, en fait, ils avaient des mitrailleuses, hein, je veux dire, voilà.
Oui,
on n'est plus à la.
C'est surtout qu'on avait cru que. L'artillerie et l'aviation avaient fait son boulot alors que ça avait passé tout à travers.
Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que logiquement, l'opération avait été retardée d'un jour.
À cause de du mauvais temps.
Donc là, il fallait vraiment le lancer parce qu'ils se disent que les espions allaient vraiment le lancer.
Oui,
donc ça a été un peu fait à la.
Voilà, et comme l'aviation, je dirais, a bombardé par brouillard, donc un peu
oui, là, voilà.
Plus allumé l'intérieur des terres que le bord.
Oui, c'est ça. Bah, disons qu'ils n'avaient pas des technologies de nos jours. Donc après, moi, ça me. Alors, tu me diras, c'est un peu le cas de le dire, c'est jeté un peu loin. C'est le fameux pont trop loin. Donc voilà, de Richard Attenborough en 1977, puisque là, on a aussi un pléthore de stars, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Robert Redford. Donc voilà. Hein. Donc en septembre 1944, les forces alliées donc en Europe, sous le commandement du général Eisenhower, essaie de terminer la guerre le plus tôt possible parce que évidemment les soviétiques
finir en Noël 44
oui puis surtout que les soviétiques arrivaient et que eux ils avaient un second front en,
oui. Après, c'était
en
politique.
Pacifique voilà bah oui mais bon c'est toujours politique sachant que le ravitaillement depuis la Normandie est compliqué. L'opération Market Garden conçue par l'anglais Montgomery toujours tente un coup d'audace sans précédent, parachuter plusieurs divisions aéroportées britanniques derrière les lignes ennemies afin de capturer plusieurs ponts stratégiques qui permettent de franchir le Rhin et d'entrer en Allemagne. L'attaque combinée des forces aéroportées Market et de la 30e corps blindé britannique Garden doit permettre pénétrer le front sur une profondeur de 100 km et d'atteindre Abrem aux Pays-Bas. Montgomery n'a-t-il pas visé un pont trop loin ? C'est ça le mystère un petit peu.
Oui, ils auraient dû s'arrêter au pont de Nimed.
Voilà, c'est ça.
Le pont d'avant.
Oui,
mais ça a été tiré d'un fait réel, ça. Hein.
Oui, mais souvent un peu.
Je crois que ça a coûté enfin des milliers de morts encore, je pense, ce truc-là. Et...
Bah, c'est-à-dire que Hitler, lui, voyant les Russes arriver d'un côté et les Alliés de l'autre, il a surtout empêché les alliés d'arriver quoi. Donc, il a lancé vraiment ce qu'on appellera plus tard la bataille des Ardennes. C'est la fameuse opération l'offensive von Rastatt. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on dans les Ardennes belges et dans le Haut-Duché du Luxembourg. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment d'arrêter parce que ça a lieu de décembre 44 jusqu'à janvier 45 quoi. Et ça c'était vraiment une grosse parce qu'en plus c'était l'hiver et c'était un hiver très rigoureux. Donc on le voit dans le fameux film de William Wildman. Donc en 1944, la 101e division d'aéroportée, la fameuse, atteint la ville de Bastogne. Olé, un soldat se lie avec Denise. La progression se poursuit, mais le barrage de l'armée allemande est acharné alors qu'elle semble vouée à la déroute. Certains Allemands s'infiltrent parmi les Américains pour des missions de sapotage. Donc voilà, c'est vrai que...
Tu parles de quoi, là ?
De Bastogne.
Ah, de Bastogne, je croyais que tu parlais de la bataille des Ardennes.
Mmh, bah, ça en fait un peu partie, quelque part. Hein.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est un vieux film, hein, 1949. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de c'est quand même sacrée bataille quand même.
Oui. Bon, moi je vais vous parler de la bataille des Ardennes quoi, ce qui est quand même moi je trouve c'est un film bon, c'est pas que c'est un AV mais au niveau anachronisme, il y a pas mieux parce qu'il a été tourné je crois en Espagne, il me semble.
Ah ouais, quand même.
Oui, et que là normalement dans les Ardennes, c'était blanc chez blanc, il y a des moments donc la fameuse bataille de Chars, c'est
oui.
Très connu. Et où tu vois les Sherman qui étaient censés occuper les fameux Chartiques pour justement leur faire brûler leur carburant, tu vois de la pelouse. Tout va bien.
Oui, mais
donc
bon, c'est après. Hein,
ça a été fait par Ian Anakin. celui qu'on retrouve qui avait fait le jour le plus long. 1965, donc c'est au cours de l'hiver 44, les Alliés se tiennent prêts à envahir l'Allemagne. Pour contrer cela, Hitler décide de lancer donc une offensive gigantesque pour reconquérir la France et prendre le port belge d'Anvers. Pour cela, les Allemands rassemblent des forces considérables. Ce sera la bataille des Ardennes, vue des deux camps par les officiers, le lieutenant-colonel Reilly, qui est joué par Henri Fonda, et le colonel Hessler, lui qui est vraiment à fond, quoi. Je ne sais pas si tu vois, il y a une scène là, dans ce film, il y a son aide de camp, quoi, et à un moment donné, le colonel Hessler, tu le vois tout content, qui jubile, et donc son aide de camp lui dit « Est-ce qu'on gagne la guerre ?» Il lui dit « Non, non, on va continuer à se battre, quoi, en fait. »
Oui, mais ça, c'est... Oui,
a... Et c'est là qu'à ce moment-là, tu vois l'aide de camp qui se barre, quoi, qui est complètement contrarié, parce que lui s'inquiète, parce qu'il a la défi sur le front, et il a dit justement « Moi, je vais continuer. » Donc, tu le vois qu'il quitte, pour plus être aide de camp, mais pour passer simple soldat, et tu vois qu'il fait ça justement pour que ses fils n'aient pas à combattre.
Ouais. Ouais, oui, c'est...
Je trouve qu'il y a des bons passages dans ce film. Quoi.
Mais
après, il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment.
Non, mais ça, après, c'est sans doute des histoires de budget. Hein. Je veux dire, c'est comme, ça a été comme les western spaghetti en lieu en Espagne parce que c'était moins cher.
Puisque tu parlais de pont, donc je vais parler aussi du pont de Remagen.
Mm-hmm.
Donc, c'est un film de John Guillermin, 1969. Donc, le film a été tourné en. Donc, là aussi, c'est une histoire de pont. Hein, parce que,
souvent, hein. Fil rouge, fil bleu.
Donc Remagen, c'était le fameux pont qui était sur le Rhin, donc qui devait être vraiment pris tous les moyens. Donc le film a été tourné en... C'est juste une anecdote, hein, je veux dire, sur le film, parce que si vous voulez le voir, il est pas mal. Le film tournait en extérieur, en Tchécoslovaquie, en marge du printemps de Prague. Tchécoslovaquie apparaissait comme trop libérale et peu orthodoxe dans ses valeurs politiques. Moscou tira argument de la présence de matériel américain donc pour le tournage, et comme existence... d'une aide militaire secrète pour les pro-tchèques et anti-soviétiques, entre autres. Les excuses donc pour préparer le coup que l'on connaît, le fameux, tu sais, avec les chars soviétiques et tout ça. Donc le film, encore en cours de réalisation, l'URSS envahit le pays et les MiG survolent même le tournage.
Ah ouais.
Oui.
Ah ouais, merde. C'est ballot.
Donc, les sites de tournage, tandis que les Russes prétendaient que les espions américains se trouvaient parmi les acteurs. Oui. Donc, c'est en fait, tu vois, c'était juste une anecdote pour dire comment le film, l'ambiance de tournage du film.
D'accord, super. Bah, moi, ça me fait penser à ton histoire là, de soldat, là, du fameux film Un homme de fer d'Henry King en 1949, qui jouait avec Gregory Peck. Et donc, le général Marsh remplace un officier supérieur démoralisé par la perte de ses troupes, mais lui aussi sera très affecté par les soldats tombés au front. Le film Memphis Belle de Michael Quentin Jones en 1990 avec Harry Connick Jr.
Sur les bombardiers, ça, non ?
Oui, Matthew Modine et Eric Stoltz, Sean Astin, le fameux Sam Sagas du Seigneur des Anneaux. En 1943, l'équipage du célèbre bombardier B-17, le fameux que le premier mari de Marilyn volé dedans,
oui.
Surnommé Memphis Belle, d'après le surnom de la petite amie du pilote, a déjà 24 missions à son actif en Europe. Plus qu'une pour terminer son tour et rentrer aux États-Unis. Mais cette mission la plus dangereuse consiste à bombarder Brême en plein territoire ennemi. Donc voilà, là aussi, bon film à voir. Plus sur les pilotes, c'est vrai que quand même, il y en a un peu moindre.
Et puisqu'on parle aussi du débarquement, on peut dire un petit mot sur la très bonne série de Spielberg, Band of Brothers.
Bah, disons que oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est la suite de Il faut sauver le soldat Ryan. En fait, c'est d'après l'œuvre de l'historien Stephen Ambroise. Donc, c'est une mini-série de 10 épisodes d'une heure chacune. Ça retrace l'histoire de la Easy Company, la 106e des régiments d'infanterie parachutistes et de la 101e division d'aéroportée, celle dont on parlait ce tantôt.
Oui.
Et de ses débuts jusqu'à la fin de la guerre, donc du débarquement, enfin de l'entraînement, le débarquement, et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et jusqu'à le fameux Berchtesgaden, le nid d'aigle. Par contre, le seul erreur dans la série, enfin il n'y en a pas qu'une, mais c'est que en fait, c'est pas les Américains qui sont arrivés les premiers, c'est les Français. Donc voilà, parce qu'il y a une course à la fin avec les Français. Donc voilà, et celle-là est très très bien faite, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai encore plus adoré, puisqu'ils ont fait la série Pacifique.
Oui.
Dans le même style, qui est très très bien faite. Alors en fait,
qui s'appelle aussi Band of Brothers.
Non, qui s'appelle Pacifique.
D'accord.
Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'épisode, il y a le témoignage des vrais
Oui.
C'est-à-dire que c'est des vrais personnages. C'est des gens qui ont vraiment existé. Alors certes, c'est un peu romancé, parce qu'apparemment, il y en a certains qui ont été... qu'on dit qu'ils sont morts, et en fait, non, ils sont juste rentrés chez eux. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, donc, et ça donne un côté encore plus réaliste, et je dis que bon, là, on voit vraiment la bataille des Ardennes telle qu'elle a été vécue, qui a été quand même assez chaud. Et par contre, le Pacifique, c'est encore plus terrible.
Oui.
Moi, je trouve qu'elle est vraiment... très 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 forte. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil, le film Far Away, les soldats de l'espoir de Ye Kyu Kyung, donc en Normandie, puisqu'on en est toujours au débarquement, en juin 1944, dans les rangs de l'armée allemande, les alliés découvrent deux soldats venus de l'autre bout du monde, des Coréens, faits prisonniers par les soviétiques, puisqu'ils étaient enrôlés de force dans l'armée japonaise, qui était à l'époque en guerre contre les soviétiques, et qui sont envoyés dans un camp. Et ensuite, ils s'échappent, ils sont attrapés par les Allemands. Et ils ont combattu dans trois armées et parcouru plus de 12 000 km à travers la Seconde Guerre mondiale. Leur exploit était resté inconnu jusqu'à ce jour. Et enfin, c'est parce que l'histoire est très très belle entre ces deux hommes. L'un qui était vraiment pro-japonais et l'autre qui était un fils du peuple et qui voulait juste retrouver sa famille, quoi. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment à voir.
Tu voulais dire un mot sur le soldat Ryan ?
Oui, parce qu'en fait, l'histoire du soldat Ryan, en fait, c'est-à-dire que en fait, le personnage de Tom Hanks, Miller, lui se voit confier une mission, c'est-à-dire de pénétrer derrière les lignes et de récupérer le fameux James Ryan. Donc encore un Ryan, on a eu des Robert Ryan, mais non, on a James Ryan, parce que ses trois autres frères sont morts à trois jours d'intervalle. Donc voilà, et oui. Que en général a promis à sa mère qu'il reviendrait vivant. Et il y a toute cette histoire de cette bande qui cherche ce type et qui se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 8 vies en danger pour en sauver une seule, quoi. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui a donné le fameux histoire de Band of Brothers.
Oui, puis à la fin tu vois le fameux James Ryan sur la tombe.
Voilà, ouais, de ses frères. Ouais.
Mais c'est lui, qui l'a sauvé de Tom Hanks.
Oui, Tom Hanks. Mais non, mais c'est pas grave. Mais je trouve que effectivement ça parce que alors, c'est vrai que c'est pas. Si c'est un film violent, mais surtout le début. Après oui. ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que le débarquement, il est montré tel quel. Et moi, je dis rien que pour ça. C'est vrai oui. que Steven Spielberg, j'ai vu qu'il en avait fait pas mal justement sur la guerre. Je sais pas si c'est vrai. C'est possible parce qu'après il y avait le film 1941, mais bon, ça c'est un film plus comique, mais oui. ça se passe aux États-Unis et c'est du côté japonais, c'est pour ça que je n'en parlerai pas. Oui. Mais il y en a eu d'autres.
Et je crois que même ils ont eu des problèmes aux États-Unis, tu sais, avec les ceux qui avaient trouvé des scènes trop violentes. Je sais pas comment ça s'appelle.
Les intégristes, les mormons.
Ouais, enfin un peu comme ça, ils ne voulaient pas justement qu'ils soient diffusés.
Ouais, non, mais moi je trouve que.
Parce que c'est vrai qu'il est violent au début. Hein.
Oui, non, mais je trouve. Disons que ça a été surtout reproché à Mel Gibson dans ce film sur le Christ et puis sur Apocalypto ou même dans Braveheart, parce qu'on avait commencé par là. Mais c'est vrai que pour moi, la guerre c'est quand même un truc hyper violent, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui s'en souffrent, qui sont blessés. Après, il y a toutes les histoires de pogroms et toutes les histoires de viols et autres compagnie sur la population. Et donc, non, excusez-moi, c'est un truc à montrer vraiment dans toute sa violence. Je pense que le cinéma, au moins, il mérite de faire son travail, de montrer la violence telle qu'elle est. Et non pas de l'encourager, mais de montrer qu'effectivement, les gars, il y a peut-être d'autres solutions pour faire la guerre, mais il y a peut-être une solution à manger, peut-être un peu plus que ce film. Vous faites comme vous voulez. Oui. Donc les films italien avec ou sans Mussolini. Enfin, l'action a lieu en Italie, hein. C'est pas obligatoirement des Italiens. Donc, il y a Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini en 1945. Donc, en 1944, Rome est déclarée ville ouverte. Le chef d'un réseau de résistance communiste, l'ingénieur Manfredi, traqué par la Gestapo, se cache chez un imprimeur, Francesco, marié à Pina, Anna Magnani, qui le fait entrer en contact avec Don Pietro, le curé de la paroisse catholique. Résistant lui aussi, Pina meurt, Manfredi est trahi par sa maîtresse Marina, par l'intermédiaire de son dealer. Alors celle-là elle est très forte, parce que le dealer s'appelle Ingrid, auprès du major Bergman. Ingrid Bergman, parce qu'en fait il faut savoir que Anna Magnani avait été l'amante de Roberto Rossellini et qu'apparemment il y avait eu une rencontre scandaleuse entre Marina Magnani et Ingrid Bergman. Et en fait l'histoire se termine super mal.
Ouais.
Je crois que tout le monde meurt, hein. C'est un peu un Shakespeare. Ensuite, il y a Piazza, de nouveau de Roberto Rossellini en 1946, donc qui fixe 6 moments de la libération du sol italien pendant la campagne 1943-1944 et campe 6 courtes nouvelles filmant le climat héroïque ou pitoyable dans lequel elle s'accomplit. Annie Difficili de Luigi Zampa, 1948, le drame d'un modeste fonctionnaire sicilien, Aldo Piscatello, contraint sous Mussolini d'adhérer au fascisme pour conserver son emploi et qui le perd réellement à la libération. Le maire qui le congédie pour avoir été au parti fasciste est le même qui l'a forcé à s'y inscrire.
C'est inadmissible.
L'histoire n'est-elle pas Artun Banditi de Carlo Lizzani en 1951, la scène s'inspire de faits authentiques. Alors, le film est avec Gino Lollobrigida, pour ceux qui s'intéressent. Ici sont évoquées les aventures d'un groupe de résistants italiens dirigé par le commandant Vento. Ceux-ci doivent s'emparer d'une cargaison d'armes destinées à l'occupant allemand. Aidés par un comité d'ouvriers en grève, mené par Marco, ceux-ci parviennent à leur fin après plusieurs péripéties tendues. Les chasseurs alpins italiens hésitant eux aussi rentrent en résistance. Lors de Rome, toujours de Carlo Lizzani, 1961. Fin septembre 1943, le commandant de force nazie à Rome, Kepler, annonce que pour éviter la déportation, les juifs de Rome ont 36 heures pour lui livrer 50 kilos d'or.
You are what is up I will say, it is to wage war by sea, land, and heaven. With all our might, with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue.